Merci d'être là pour ce premier dimanche de juillet et ce premier dimanche sans notre pasteur Vincent Hubac. C'est donc la semaine prochaine que Arthur Gerstet-Joly commencera son ministère parmi nous. Son ministère. Et ben voilà, nous allons faire ce culte ensemble. Comme il se trouve qu'il est enregistré, bon, on va garder une certaine solennité, enfin bon, puisque nous aurions pu aussi, étant donné que nous sommes là une douzaine, je pense, hein, nous aurions pu aussi former un petit cercle et travailler autrement. Mais voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi des textes qui ont été composés pour différentes solennités de notre Église, et je les ai choisis sur le site de notre Église. Nous invoquons Dieu. Seigneur, il n'est pas glamour ton amour, il n'est pas en vogue, et s'il a le vent en poupe, c'est de mettre en mouvement. Il n'est pas sensuel, et je ne crois pas non plus qu'il soit un sentiment. Mais il fait tressaillir d'un ineffable tremblement qui nous fait et refait à chaque instant vivant. Oui, ce n'est pas une leçon, ton amour, Seigneur. Ce n'est pas non plus une morale ou un conformisme social. Mais c'est un commandement de ce que tu ordonnes pour briser nos vacarmes. Il n'est pas un mot, un concept ou une idée, mais il a un nom, le nom de la fête où tu nous invites chaque jour à notre tour à inviter. Car il ne se possède pas, ton amour, Seigneur, mais il passe par nous dans la mesure où nous le laissons passer. Il s'enfle des visages que tu lui appelles, à lui donner. S'il y avait une école de ton amour, Seigneur, nous y apprendrions qu'il a partie liée à notre liberté. Il est un joug léger, ton amour, Seigneur. Il est le petit frère aimé, bien-aimé de ta grâce. Amen. Nous chantons. Pour louer Dieu. Acclamez Dieu, terre entière. Criez, criez de joie. Faites éclater vos chants et vos musiques. Jouez sur la guitare au son des instruments, avec les trompettes, avec les grandes orgues. Acclamez Dieu. Que bruissent la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent en vaguelettes joyeuses. Qu'avec eux les montagnes retentissent de joie devant Dieu qui vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde, avec justice et les peuples avec droiture, pour préserver la vie et sauvegarder sa diversité. Amen. Et nous prenons le premier cantique, c'est le psaume 138. Asseoir. Écoutons ce que Dieu veut pour nous et nous veut pour nous et nous donne la force de faire. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel perd de son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Amen.
Et le bon.
Dieu notre Père en Jésus-Christ, tu nous as donné la vie, tu nous as façonnés avec amour, tu nous as confié la terre pour l'habiter dans la justice. Nous confessons notre péché, nous nous éloignons de toi et nous nous attachons à de faux dieux, la fascination de l'argent, la consommation impulsive, la mauvaise répartition de la richesse et l'exploitation de l'être humain. Cela nous amène à la détérioration de notre précieuse planète perdue dans l'immensité des galaxies désertes. La destruction de notre maison commune que nous habitons avec tous nos frères et sœurs en humanité et tous les êtres vivants que tu as créés. Nous ne sommes pas des artisans de justice ni de paix. Nous ne témoignons pas du salut ni de la libération que tu nous donnes. Pardonne-nous et façonne-nous à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Pour recevoir l'annonce de la grâce. Pardonnés et libérés par notre Dieu tout-puissant d'amour, nous pouvons désormais avoir à nouveau confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes capables d'accomplir et d'être. Que nous ayons confiance en ce que nous sommes ensemble. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Alors, si quelqu'un veut avec moi lire les textes du jour, merci Antoine. Encore faut-il que j'aie ma Bible avec moi.
Donc au livre de Zacharie, chapitre 9, versets 9 et 10. Danse de toutes tes forces, ville de Sion. Oui, pousse des cris de joie, Jérusalem. Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, il supprimera les chars de guerre, et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Il sera le maître de la mer morte à la mer Méditerranée et du fleuve Euphrate à l'autre bout du pays.
Le second texte est tiré de la lettre aux Romains, chapitre 8. Les versets 9 à 13. En fait, non, nous allons prendre exactement les versets qui suivent. Bon, voilà, okay. Jusqu'à la fin du paragraphe.
Ok.
Donc les versets 14 à...
Je commence à 9 et je finis à...
Non, non, on va prendre les suivants.
Non, je commence voilà. à 14 et oui. je finis à... D'accord. Très bien. En effet, tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père ». L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire.
Merci. Et le texte des évangiles du jour est tiré de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 à 30. Ce sont des versets bien connus. C'est à ce moment-là que Jésus, répondant à une question, dit « Je te rends grâce, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux savants et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, telle a été ta bienveillance. J'en rends grâce devant toi. Tout m'a été confié par mon Père. » Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni ne connaît le Fils, ni ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés du fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. Car mon joug est une bonne chose et mon fardeau est léger. Voilà. Voilà les textes que nous avons à lire, que nous avons à lire. Et nous prions Dieu avant de chanter et de prendre le commentaire pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Il est à la fois le bateau, le phare et le port, ce texte que tu nous as donné. Il est le départ et il est l'arrivée, le voyage et son retour. Il est l'océan de tous nos déplacements, la balise de nos secours. Ton évangile est bouleversement et continuité. Il est héritage et rupture. Il est le mouvement perpétuel qui demeure et fait bouger. Il est accueil et envoi. Il est réceptacle et lancement. Ton évangile est pareil au matin, répétition prévisible et surprise d'émerveillement, fulgurance du recommencement. Ton évangile est le bateau. Laissons-nous embarquer. Il est le phare. Laissons-nous guider. Ton évangile est le port. Revenons à lui. Ancrage d'éternité. Amen. Nous chantons donc le cantique numéro 1403. Alors nous prenons les strophes, c'est le Magnificat. Nous prenons les strophes 2, 3, 5 et 8.
Alléluia, alléluia.
Alors, vous avez peut-être entendu ou bien lu dans le dernier numéro du 702 l'analyse proposée par Vincent Hubach de l'ensemble des témoignages de la résurrection à travers les évangiles et les lettres de Paul qui les ont précédés. Si vous ne les avez pas lus, bon, il faudra que vous vous y mettiez. Il en ressortait l'idée que la foi en la résurrection est une affaire de rencontre personnelle, chaque fois différente, entre Jésus et chacun des siens. Le Christ ressuscité ne se prouve pas, mais il s'éprouve dans l'expérience de chacun des témoins. Et nous pouvons tous aujourd'hui encore, être ou devenir un de ces témoins. Eh bien, quelque chose de cet enseignement est à tirer du court passage de Matthieu que nous venons de lire. Ce ne sont pas les raisonnements qui conduisent à Dieu, mais la reconnaissance d'une relation toute simple, une relation intime, une relation d'adoption de père à fils. Il suffit, une fois cette relation reconnue, de se confier à la douceur de la loi paternelle transmise par le Fils et de se laisser guider par elle. C'est exactement ce que nous dit Paul dans le passage que nous avons lu de la lettre aux Romains. C'est pour ça que je n'ai pas tout à fait choisi le passage qui est prévu pour ce jour dans nos textes, mais juste le texte qui vient après, parce que ça répond exactement à cette idée-là. Nous ne sommes pas les esclaves d'un esprit qui nous fait peur, mais l'esprit fait de nous des fils adoptifs qui crient comme des petits-enfants qui appellent leur papa. Abba, père, Abba, papa. Et le texte de Zacharie que nous avons entendu nous permet de renchérir. Le roi auquel nous obéissons, il est tout humble. Il vient, vous le savez, monter sur un ânon. Il apporte la paix et non pas la guerre et le fracas des victoires. C'est donc de cette relation filiale de confiance et d'obéissance que nous avons à nous occuper aujourd'hui. Et elle est d'autant plus importante ici, dans Matthieu, que les évangiles synoptiques ne renvoient que rarement à Dieu comme au Père. Juste 10 ou 12 fois, peut-être, dans les 3 évangiles synoptiques. Ce n'est que dans l'évangile de Jean que cette relation est constamment rappelée, 100 fois. Vous voyez la distance, hein? Mais on va commencer par situer un peu ce texte de Matthieu. Il n'a en fait qu'un parallèle dans Luc, et ce pour la première partie du texte seulement, cette partie où Jésus rend grâce à Dieu et témoigne de son statut de fils. Les 3 versets où Jésus nous appelle à nous mettre sous son joug facile et doux, ces 3 versets, eux, n'ont aucun parallèle. Le parallèle de Luc, pour le début du texte, hein, reprend en fait littéralement reprend littéralement le texte que nous avons lu dans Matthieu 8, 25-27, à une toute petite différence près qui est tout à fait secondaire. Mais ce parallèle se situe dans un autre contexte. Si vous lisez Luc, on se situe au retour de la mission d'annonce du règne de Dieu qui a été confié aux 72 disciples envoyés dans toutes les villes de Galilée et des alentours. Et ce retour est triomphant chez Luc. Les disciples annoncent avoir même soumis les démons. Ils ont fait des tas de signes, ils ont guéri, ils ont soumis les démons, etc. Et ce parallèle de Luc, donc, est introduit par un verbe indiquant que Jésus, tout à coup, est saisi par l'Esprit Saint et se met à jubiler. Il y a un verbe là qui veut dire qu'il jubile, qu'il est saisi d'une inspiration, comme un prophète, dans une invocation rythmée qui est un chant d'action de grâce. Le contexte dans notre texte à nous du jour, il est tout autre. Dans les versets qui précèdent dans notre passage, Jésus invective les villes, c'est-à-dire des villages palestiniens qui sont en fait bien connus de lui et de nous aussi, par leur nom au moins, Chorazin, Bethsaïda, Capernaum, des villages qui ne se sont pas convertis, ou des villes qui ne se sont pas converties devant les miracles accomplis par lui ou par ses disciples. Et il annonce que le châtiment pour elles sera pire que pour Sodome et Gomorre, parce que Sodome et Gomorre, comme la Ninive de Jonas, comme les païennes Tyr et Sidon, se seraient sûrement laissés persuader par tant de miracles et de signes, et auraient fait repentance, s'habillant d'un sac et se roulant dans la cendre, vous savez, un peu comme dans le livre de Jonas. Et bon, ces invectives existent aussi, enfin ces malédictions, disons, existent aussi dans Luc, mais elles font partie des conseils qui sont donnés aux 72 envoyés en mission. Il leur dit, si jamais on ne vous répond pas, à ce moment-là, ça sera grave pour ceux qui ne vous accueilleront pas. Mais voilà que tout à coup, revenons donc à notre texte, sans transition autre qu'un vague en ce temps-là, en cette occasion-là, Jésus change de registre. Ce ne sont plus des menaces de châtiment, mais la tendresse, la douceur et la reconnaissance. À qui Jésus parle-t-il? Rien n'est dit de son auditoire. Il lance d'abord à Dieu même son cantique d'action de grâce, et qui plus est, en réponse, dit le texte, à une question que nous ne connaissons pas. Mais le parallèle de Luc suggère qu'il s'adresse à ses disciples. On pourrait même comprendre, en prolongeant encore le parallèle, qu'il est en train d'opposer les villes savantes, soucieuses d'une application rigoureuse de la loi de Moïse, conseillées par des rabbins et des docteurs de la loi intransigeants. Il oppose ces villes qui sont très soucieuses de la loi juive à la fidélité de ses disciples à lui, qui se contentent d'obéir à ses propres commandements, si faciles à suivre. Les tout-petits dont il parle évoquent en effet sa manière d'appeler familièrement et tendrement ses disciples, comme souvent ailleurs. Et par exemple, juste un peu plus haut, en Matthieu 10, « Si quelqu'un donne à boire à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, en vérité, je vous le déclare, il ne perdra pas sa récompense. » Les disciples, pour Jésus, ce sont ses petits, des petits-enfants. Il se trouve d'ailleurs que juste après notre passage, Jésus répond à des rabbins qui se scandalisent de ce que les disciples arrachent des épis dans les champs pendant le sabbat. Si les disciples ont faim, dit Jésus, rien de sacré ne doit les empêcher de manger ce qu'ils trouvent. Et il cite le premier livre de Samuel où David demande au prêtre Ahimélec de lui donner les pains de proposition destinés au culte dans la partie du temple qui est accessible au prêtre seul. Et cela pour nourrir ses compagnons. Vous voyez le lien tout particulier qui oppose la relation de Jésus à ses disciples avec une relation à une sacralité qui est un peu étouffante et accablante. Voilà donc pour le contexte, très incertain somme toute, où notre texte vient s'incruster comme une perle inattendue. Et dans ce précieux passage, Jésus s'adresse d'abord à son Père pour une action de grâce, puis il énonce à la troisième personne une relation filiale à Dieu, Et enfin, il appelle à lui, avec la promesse d'une loi douce et facile à supporter, tous ceux qui veulent le suivre. Mais il y a un extraordinaire abîme, une extraordinaire distance entre ce Père, Seigneur du ciel et de la terre qu'il invoque, ce Dieu créateur et ces tout petits dont il va se faire le Père, dont Dieu se fait le Père et auquel il fait le don de sa révélation, moyennant la médiation de Jésus. Quelle bienveillance et quel amour de la part de Dieu à travers Jésus. De quelle révélation, de quel mystère s'agit-il? Qu'est-ce qui est transmis à ses fils? Ce ne sont pas des rêves prophétiques comme ceux que Daniel élucide d'après une vision nocturne aux oreilles du roi de Babylone, Nabuchodonosor. La réponse vient immédiatement après. Ces mystères sont une chose toute simple. Il s'agit de la relation filiale entre Dieu et Jésus. Cette relation, en principe, elle ne se partage pas. Une fois reconnue, elle va de soi et elle est mutuelle. On n'est père que par un fils et on n'est fils que par un père. Et vous savez aussi que contrairement à la maternité, que la nature impose d'elle-même et qui n'a pas besoin de certificat, la paternité suppose une reconnaissance du fils ou de la fille par le père. Et du père par le fils ou la fille. Et c'est ça le mystère. Il s'agit de cette intimité partagée qui vous définit dans votre identité et qui permet à chacun d'entre vous, d'entre nous, de dire le même mot, papa, maman, à des personnes différentes qui cependant nous constituent chacun comme un être unique et irremplaçable devant un papa et une maman personnels à chacun de nous. On pourrait, selon les sociétés, élargir cette relation intime et constitutive d'identité à une parentèle beaucoup plus large. Oncle paternel, maternel, fratrie, utérine, consanguine, germaine, cousin croisé ou parallèle, etc., etc. Or, ces relations-là concernent notre identité charnelle et sociale. Et chacun peut la déduire de l'ensemble des positions occupées par un quelconque quidam dans le réseau familial ou tribal. Mais la relation d'un père à son enfant a quelque chose d'électif et de symbolique. On sait qu'en Grèce ou à Rome, le père devait soulever l'enfant dans ses bras pour le reconnaître devant ses proches. Dans ce même geste s'opère aussi la transmission d'un héritage. La relation de Jésus à son Père est d'autant plus intime et même cachée que nul ne voit le Père, à moins que le Père ne soit dans tout, dans le ciel et sur la terre, à la fois invisible et présent dans tous les paysages et dans tous les visages. Jésus seul a reçu pleine communication de ce mystère, de la paternité de Dieu et de son héritage. C'est pourquoi aussi, c'est par lui, c'est par Jésus, le médiateur, que doit passer à d'autres la révélation du Père. Et chaque fois, cette révélation constitue son bénéficiaire en fils ou fille adoptif de Dieu et petit frère, petite sœur de Jésus. C'est le Fils qui fait de nous, s'il le veut bien, des fils et des filles à notre tour du même Père. Et nous voilà en famille. Après s'être adressé au Père, Jésus s'adresse à ses petits frères et sœurs avec la bienveillance et la tendresse d'un grand frère. Venez à moi, entrez dans ma famille, car vous en êtes, par cela seul que je vous l'ai dit et révélé, vous qui m'aimez et me suivez. En lisant cette parole comme adressée à nous, à chacun de nous, nous en devenons les héritiers à notre tour. Et la bonne surprise, c'est que cette famille-là n'est pas tenue par les règles strictes de la loi de Moïse revues et aggravées par les rabbins. Le joug Le joug, vous savez ce que c'est une pièce de bois qu'on faisait peser sur la tête ou le cou des bêtes de somme auxquelles on voulait faire tirer un chariot ou une charrue. Et ce joug était pour les animaux un lourd fardeau s'ajoutant au fardeau à tirer par ce moyen. Et ici, le joug dont il est question, ben c'est juste une métaphore qui renvoie d'ordinaire au temps de Jésus à la loi juive, ou plus précisément dans notre passage, à la loi de Jésus opposée justement à une loi trop littérale. Or, nous savons que la loi de Jésus est une loi d'amour. Elle est donc très facile et même agréable à soulever et à porter. Jésus n'a rien d'un palefrenier armé d'un fouet pour faire avancer ses bêtes. Il n'a rien d'un garde-chiourme, ni d'un professeur sévère et exigeant. Il est, nous dit le texte, doux et humble de cœur, un grand frère qui ne la ramène pas, comme on dit. À porter son joug, on trouve non la peine, mais le repos des hommes qui vivent dans la certitude d'avoir été accueillis dans une famille devenue la leur. Et cette famille ne demande rien d'autre que d'être reconnue comme telle par ses enfants. D'autres ont peut-être besoin d'une approche moins directe de ce mystère. Et c'est comme ça que Matthieu, un peu plus loin, va dire, on lit dans Matthieu, à une question des disciples, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Mais Jésus répond, parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc ces mystères, c'est cette relation filiale. Hein? Tandis qu'à cela, ce n'est pas donné. Ou en tout cas, ce n'est pas encore donné, peut-être. Nous formons donc cette famille, une petite famille, une petite partie de cette famille, qui ne peut se reconnaître comme telle que par le partage de la parole et quelquefois aux grandes occasions, surtout le partage de la table. Alors, nous n'avons pas encore Sainte-Cène aujourd'hui, parce que nous évitons de partager le virus en même temps que la parole, mais sachons, comme Jésus, accueillir comme nôtre tous ceux qui se présentent pour prendre part à la révélation, et même aller les chercher quand ils s'éloignent ou se perdent. Et mettons-nous bien en tête que cette révélation n'est rien d'autre que la conviction intime ou simplement le désir et la soif d'être reconnu comme fils de Dieu par la médiation de notre frère Jésus-Christ. Amen. Nous nous levons pour confesser notre foi. Alors, je vous propose de redire chacun des versets, enfin des courts versets que je vais citer tout à l'heure. Éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous affirmons notre foi. Avec Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Avec André, nous avons trouvé le Messie. Avec Nathanaël, Maître, tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Avec les Samaritains, nous savons qu'il est véritablement le Sauveur du monde. Avec Pierre, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Avec Marthe, tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Alors, oui, prenons un petit peu. Rendez-vous de vous, ma grâce est admirable. Toi qui réponds dans nos bienfaits, mes bienfaits innombrables. Mon peuple t'implore à genoux, tu viens, Seigneur, poser sur nous ton regard favorable. Vous pouvez vous asseoir, ce serait normalement le temps de l'offrande, mais comme nous ne voulons pas, encore une fois, partager autre chose que la parole, vous avez une corbeille à l'entrée où vous pourrez déposer votre offrande tout à l'heure, à la sortie en l'occurrence. C'est le moment des annonces. Bon, pour moi, je n'ai pas d'autres annonces à faire que celles que je vous ai déjà faites tout à l'heure. Nous allons accueillir la semaine prochaine, donc soyez là, si c'est possible pour vous, si vous n'êtes pas déjà parti en vacances. Nous allons accueillir la semaine prochaine notre pasteur, qui est là, notre pasteur proposant, qui va donc avoir à prendre en charge sa première paroisse. Il aura besoin d'un peu de soutien, je suppose. Et nous aurons d'autre part le mardi de la semaine qui vient, le mardi qui vient, nous aurons le conseil presbytéral. Le mercredi, s'il y a quelqu'un parmi vous pour m'accompagner dans le travail sur le prochain 702, ce serait bien. Parce que je vois que les collaborateurs habituels ne sont pas là aujourd'hui. Et puis sinon, sachez qu'il y aura culte pendant tout l'été, même si notre nouveau pasteur prend effectivement des vacances pendant 3 semaines, eh bien, nous nous relayerons pour assurer le culte entre 2 ou 3. Et bon, la rentrée, vous en entendrez parler sur le site et dans le prochain 702. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à annoncer de la part de concernant l'un ou l'autre paroissien. L'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous tout à l'heure, s'est inquiété de Gisèle, si quelqu'un a des nouvelles. Bon, peut-être est-elle partie avec sa famille en Bretagne, mais peut-être serait-ce bien d'essayer de savoir. Normalement, elle est accompagnée. Hein. Eh bien, c'est le moment de l'intercession. Nous prions les uns pour les autres, les uns avec les autres. Notre Père, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes en partage. Tu es l'unique Créateur qui laisse à chacun, à chaque peuple, une place sur cette terre. Nous te rendons grâce de pouvoir être avec toi, jardinier de ta création. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Cette phrase, je vous invite à la répéter au fur et à mesure, chaque fois que je la reprendrai. Enfin, à la dire avec moi, chaque fois que je la reprendrai. Par le Christ, reconnu jardinier au matin de la résurrection, par ta bouche, tu appelles l'humanité à veiller sur la terre, les cieux, les mers, à cultiver et à nous cultiver. Rassemble-nous pour devenir des jardiniers de la création. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Tu veux pour chacun et pour chaque peuple une vie réconciliée et liée à ta parole créatrice, soit avec ceux qui ont perdu le goût d'un vivre ensemble et pour qui la vie connaît trop de déchirures. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Par ta parole de vie, Esprit Saint, tu fais germer en nous les graines d'amour, de paix et de justice. Arrose chaque graine et fais-nous grandir dans cette justice, bâtisseur, créateur. Donne-nous le souffle de ton inspiration pour être créatif, tourné vers toi et ouvrir les portes à tous les hommes et les femmes dispersés sur cette terre. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Nous te prions pour les responsables politiques et ceux qui gouvernent les pays, que leurs décisions s'unissent sans cesse à une volonté de chercher la vie pour les générations futures. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création. Nous, dans ce coin du sud parisien, nous voulons te confier tous les membres de notre Église qui vient de voir la quitter son pasteur et qui s'inquiète de son avenir. Donne à son nouveau berger la fermeté de la foi et à son troupeau qui l'attend la confiance et le souci de l'accompagner dans sa tâche nouvelle pour lui aussi. Du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des jardiniers de ta création et d'être des ouvriers de ton Église. Et du lever au couchant, donne-nous la vigilance d'être des ouvriers de ton Église. Écoute notre prière dans la reconnaissance pour la vie que tu nous donnes en partage. Notre prière, celle que tu nous as apprise, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous prenons maintenant le dernier cantique affiché, que vous connaissez bien. Numéro 47, 047, 18.
Tu consoles, tu m'as.
Prenez sur vous mon joug, dit le Seigneur, et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. N'oublions pas que l'espérance grandit et prend corps là où des hommes et des femmes écoutent la parole de Dieu le Père, qui prend corps en Christ et que l'Esprit transforme en nous en force intérieure. Partons en chemin vers nos familles, nos collègues, nos amis, nos communautés. L'espérance grandit et prend corps sous nos yeux, sous nos mains, sous nos pas, quand nous allons où Dieu nous envoie, au plus proche du cœur de l'humain. Agissons, écoutons. Laissons-nous visiter par la parole partagée par les autres que nous croisons. L'espérance grandit et prend corps quand nous croyons à la force des actions modestes, mais déterminées. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde. Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte son regard sur vous et vous donne la paix. Amen. Nous prenons le dernier chant avant de nous quitter.
Viens nous précéder.
À tous.